Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez RTF et tout de suite, c'est Cinéscopie, votre magazine consacré au cinéma et à la musique de film. Nous vous parlerons également du support physique, l'actualité du Blu-ray, DVD. C'est dans quelques instants. Et je vous rappelle que Cinéscopie est une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Et nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22h30. Voilà, on a profité de ces quelques jours d'interruption pour aller au cinéma, évidemment, et nous vous parlerons des films que nous avons vu. Alors pour commencer cette émission, parlons musique de film, l'actualité de la musique de film, avec tout d'abord une triste nouvelle, puisque nous avons appris ce week-end la disparition de Michel Portal, un musicien assez inclassable, mais on classe plutôt en général dans le domaine du jazz. C'est un multi-instrumentiste qui nous a quittés, saxophoniste, clarinettiste et compositeur. Michel Portal était natif de Bayonne et il a mené une carrière un petit peu dans tous les registres, dans la musique classique, mais aussi dans le free jazz. Il a composé également pour le cinéma, et c'est pour cela en particulier qu'on vous en parle ce soir. Il a notamment été lauréat de 3 Césars pour la musique du retour de Martin Guerre en 1983, Les Cavaliers de l'Orage en 1985 et Chant d'honneur en 1988. Il avait obtenu également 2 sets d'or pour des musiques de films, sans compter une victoire du jazz, récemment d'ailleurs en 2021. C'était, je crois, son dernier album. Il avait obtenu en 1983 le Grand Prix National de la musique. Voilà. Un amoureux des métissages, hein, Michel Portal. Je crois que, il aimait surprendre, il aimait se surprendre aussi, ne pas se répéter. Voilà, donc il nous a quitté, il avait 90 ans.
Oui, Michel, bonsoir. Un musicien incontournable, parce que comme tu le disais, c'est vraiment le précurseur du free jazz. Et le free jazz, alors sans rentrer vraiment dans les détails, mais c'est un artiste qui a imposé le jazz français, parce que contre toute attente, parce qu'il y avait quand même une forte concurrence, comme vous pouvez l'imaginer, du jazz outre-Atlantique. Et donc du coup, avoir engagé une sorte de révolution à la française et d'imposer notre patte hexagonale dans le jazz, c'était pas facile, et il a ouvert la voie à d'autres musiciens par la suite, mais c'est vraiment un très très grand musicien et compositeur.
Voilà, donc Michel Portal, en tout cas, va laisser une trace incontestablement dans la musique. Et on voulait quand même, évidemment, le saluer ce soir. Et de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur Michel Portal dans nos émissions. Alors, l'actualité de la musique de film, ce sont aussi des sorties discographiques avec... ça se réveille un peu hein, chez les labels. Et chez Quartet Records, le label espagnol que nous affectionnons tout particulièrement, c'est une salve Ennio Morricone qui vient d'apparaître avec 4 films. Tout d'abord, Città Violenta, Cité Violente, ou Cité de la Violence chez nous, le film de Sergio Solima avec Charles Bronson, donc c'est Morricone qui en avait fait la musique, c'est vraiment un classique du genre, que je vous conseille, ça a été remasterisé, et je vous conseille franchement d'acheter cette BO. Et puis une autre musique de Polizio Tesco, Svegliati et Uccidi, là aussi c'est Ennio Morricone. Ça, c'est un film avec Robert Hoffman et un polar. Assez intéressant quand même, avec un joli thème musical. Et il y a une chanson interprétée par Lisa Gastoni également sur cet album. 3e sortie consacrée à Morricone, Massacre à Rome. Alors c'est couplé d'ailleurs avec un autre film, À l'aube du 5e jour. D'ailleurs, ce film, À l'aube du 5e jour, est doté d'un très beau thème également. Musique peut-être un petit peu plus expérimentale pour ces deux films, Massacre à Rome et À l'aube du 5e jour. Mais bon, voilà, c'est Ennio Morricone, donc si on est fan, eh bien on va se procurer aussi cet album vraiment consacré à la guerre. Alors moi, quand même, mon choix personnel sur cette salve Ennio Morricone, c'est le film ad ogni costo. Alors qu'est-ce que ça veut dire en italien? Ad ogni costo, ça veut dire à tout prix. Mais le film est sorti chez nous sous le titre Le Carnaval des Truands. Un film de 1967 avec dans le rôle principal Edward G. Robinson. Eh oui. Mais voilà, c'est un excellent film. Et alors la musique de Morricone, si vous aimez les rythmes brésiliens, les sambas, alors vous allez être aux anges, c'est vraiment sublime, et c'est vraiment le CD que je vous conseille. Chez nos amis de Music Box Records, alors là, c'est le retour de Philippe Rombi, avec le film Les Enfants de la Résistance, donc un CD consacré à la musique de film vient de paraître chez Music Box. Philippe Rombi, de retour aux affaires, avec... une musique lyrique en diable, c'est Philippe Rombi comme on l'aime. On le retrouve après la tambouille effroyable de Dalloé, tambouille électronique. Là, il revient vraiment à ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire la musique symphonique avec des thèmes vraiment superbes, édité chez Music Box Records. Dans les nouveautés, on a également la réédition de la musique de Keith Emerson pour Inferno, deuxième volet de la trilogie de Dario Argento consacrée aux Trois Mères. Inferno, donc superbe composition de Keith Emerson qui est donc proposée ici dans une version étendue et je vous la recommande. Et enfin, une musique signée John Cameron pour un téléfilm anglais, Witness for the Prosecution, un téléfilm anglais qui adapte en fait un roman d'Agatha Christie, et c'est Caldera Records qui vous propose cette belle sortie. Donc voilà, belle salve Ennio Morricone, et puis n'oubliez pas surtout le Philippe Rombi, Les Enfants de la Résistance, parce que la musique est tout à fait superbe. Autre actualité concernant la musique de film, eh bien nous allons connaître très prochainement, le 26 février précisément, eh bien les récompenses décernées par l'Association internationale des journalistes critiques de musique de film. Alors oui, il y a une association qui tous les ans se réunit et vote pour les meilleures musiques de film de l'année écoulée. Alors, on va faire un petit, avec toi Laurent, si tu veux, un petit pronostic. Alors, pour qui voterais-tu? Pour la meilleure, alors, dans la catégorie meilleure musique de film de l'année, nous avons tout d'abord Avatar de Simon Franglen, Avatar 3 bien sûr, Les Quatre Fantastiques de Michael Giacchino, Frankenstein d'Alexandre Desplat, Jurassic World Renaissance d'Alexandre Desplat également, et Sinners de Ludwig Göransson. Alors à qui donnerais-tu finalement le prix de la meilleure musique de film de l'année? Alors moi j'ai un petit chouchou quand même, je veux dire, j'ai quand même une petite préférence pour Avatar de Simon Franglen. Laurent, là il est en train de se concentrer sur autre chose, on lui demandera tout à l'heure, à moins que tu aies un avis sur la question. Est-ce que tu... Non, il n'était pas avec nous, il était aux manettes. On était en train de faire des pronostics, mon cher ami, sur les prix décernés par l'Association internationale des critiques de musique de film. On aura les réponses le 26 février. Alors, dans la catégorie meilleure musique de film de l'année 2025, je répète, hein, parce que... Avatar 3 de Simon Franglen, Les Quatre Fantastiques de Giacchino, Frankenstein d'Alexandre Desplat, Jurassic World Renaissance d'Alexandre Desplat et Sinners de Ludwig Göransson. Ce sont les nommés. Quel est ton chouchou là-dedans? Qui verrais-tu gagner?
Alors, c'est pas du tout un choix très personnel. Hein.
Oui.
Mais il est possible qu'il y ait un Français dans...
Donc, tu penses que ce serait Alexandre Desplat, soit pour Frankenstein, soit pour Jurassic World?
Oui, peut-être pas Jurassic D'accord. World, mais peut-être Frankenstein.
Bien. Dans la catégorie... après, si tu veux, il y a plusieurs catégories, hein, et il y a la catégorie par genre de film. Dans la catégorie meilleure musique pour un film dramatique, nous avons Downton Abbey, Le Grand Final, de John Noon, Hamnet de Max Richter, Jack Kelly de Nicolas Britell, Marty Suprême de Daniel Lopatine et Nuremberg de Brian Tyler. Alors, qu'est-ce que tu dirais quoi? Moi, personnellement, Je pense que ce serait Nuremberg de Brian Tyler. Alors, tu as vu Nuremberg, d'ailleurs?
Oui, ben, je l'ai vu, et honnêtement, j'opterais plutôt pour Max Richter.
D'accord, pour Hamnet.
Oui.
Très bien. Alors, meilleure musique pour une comédie. Alors, Anaconda, musique de David Fleming, et La Maquée, musique signée Hans Zimmer, Eternity, de David Fleming également d'ailleurs. The Naked Gun, alors ça c'est Y a-t-il un flic, hein, le dernier avec Liam Neeson, musique de Lorne Balfe. Et The Thursday Murder Club de Thomas Newman. Alors là j'avoue que j'ai pas d'avis particulier.
Je connais pas toutes les partitions. Mais en tout cas, je sais.
Pronostic, on va dire.
J'écarterai Lorne Balfe.
Oui, d'accord. Oui.
Et après, Thomas Newman.
D'accord. Bon. Alors, maintenant, meilleure musique pour un film d'aventure ou un film d'action. Voici les nommés, les nominés. Les nominés sont... F1 de Hans Zimmer, Mission Impossible de Final Reckoning, musique signée Max Arouge et Alfie Godfrey, One Battle After Another, donc une bataille après l'autre, musique de Johnny Greenwood, Play Dirty, musique d'Alan Silvestri, et alors attention, Super Furball and the Lying Squirrel, c'est de Panu Altio. Alors là, moi personnellement, mon choix est fait. Moi, j'hésite entre deux, mon cher ami. J'hésite entre F1 et Play Dirty de Silvestri.
Alors, si on peut dire qu'on hésite, il y a un choix qui est assez commun, c'est l'Alan Silvestri. Le deuxième, j'opterai plutôt, parce que je l'ai écouté à tête reposée, de la musique d'une guerre après l'autre de Johnny Greenwood.
Et finalement.
Et qui est, contre toute attente, il y a des thèmes assez intéressants.
D'accord. Donc tu opterais pour une bataille après l'autre pour la meilleure musique d'un film d'action, d'aventure.
Et le Silvestri aussi.
Le Silvestri, quand même pas mal.
Ouais. Oui.
Alors attention maintenant, catégorie des films de fantasy, de science-fiction. Alors Avatar, Bugonia, Les Quatre Fantastiques, Jurassic World, Wicked for Good, le dernier. Alors, moi, personnellement...
Le choix est difficile.
Le choix est difficile. Moi, j'hésite entre Avatar et Wicked, de John Powell, en ce qui me concerne.
Là, j'aurais du mal à départager l'ensemble. Ouais. Il y en a peut-être un, c'est peut-être le second.
Les Quatre Fantastiques ?
Non, Bugonia.
Bugonia.
Oui, Bugonia ou...
Un peu plus, peut-être un peu moins consensuel.
Honnêtement, j'écarterai Bugonia.
Ouais. Voilà. Alors, meilleure partition maintenant pour un film d'horreur ou un thriller. Alors, nous avons Dracula de Danny Elfman, Destination Finale, Bloodlines de Tim Wynn, Frankenstein à nouveau d'Alexandre Desplat, Le Portrait Ovale d'Andrew Morgan Smith et Sinners de Ludwig Göransson. Alors moi déjà, je vais te dire, hein, je vais écarter d'office le Dracula de Danny Elfman. J'ai un peu de mal, c'est le film, hein, déjà, le film. Et je trouve que Danny Elfman a du mal à se renouveler. Il y a des thèmes quand même, notamment le thème principal qui ressemble beaucoup à ce que un thème de Christopher Young. Donc bon. J'avoue, j'ai quand même bien aimé Sinners. J'hésiterai entre Sinners de Göransson et Destination Finale. J'avoue que j'ai été agréablement surpris par une musique quand même plutôt symphonique dans Destination Finale. Ça m'a pas déplu. Je sais pas si toi tu as un avis tranché là sur.
Non, parce que j'ajouterai à ton choix le Desplat aussi. Oui. Frankenstein,
ouais, ouais. Il risque d'avoir quand même quelque chose.
Hein. Oui, il y a de grandes chances. Hein,
Ouais, parce que c'est quand même une partition soignée, bien écrite. Ouais, ouais. Pour un dessin, alors meilleure musique pour un dessin animé. Alors là, qu'est-ce qu'on a dans les nominés? Nous avons Arco. Alors ça fait plaisir parce que c'est un français. Arco, de musique de Arnaud Toulon, The Bad Guys 2 de Daniel Pemberton, Elio de Rob Simonsen, Three Kingdoms Starlit Heroes de Neil Acree. Et Zootopie 2 de Michael Giacchino. Alors là, moi je donnerai pas mon avis parce que j'avoue que cette année je n'ai vu que Arco en dessin animé.
Donc, oui, mais moi je dirais Arco parce que voilà. Oui, pour défendre un petit peu, ouais. Voilà, on est un petit peu chauvin, mais bon, pourquoi pas.
Bah oui.
On peut peut-être.
Je trouve que c'est plus. Il y a une certaine originalité dans la musique.
Oui, non, mais je pense que le film est très unitaire dans sa conception, tant sur le plan du fond et de la forme, et musicalement aussi. Donc je pense que voilà, ça pourrait être.
Peut-être une chance pour Arnaud Toulon sur ce
pas.
Film.
Mmh.
Et alors maintenant, meilleure musique pour un film de télévision. Alors, nous avons Astérix et Obélix, Le Combat des Chefs, musique signée Mathieu Alvado. Call the Midwife, musique de Maurizio Malanini, compositeur que j'aime beaucoup d'ailleurs, ce compositeur italien mais qui travaille essentiellement en Angleterre. Le Guépard, Il Gatto Pardo, la version télé du chef-d'œuvre de Visconti, musique de Paolo Buonvino. Alors, j'ai écouté des extraits, c'est pas mal hein, quand même, de Guépard. La série Star Wars Andor, musique signée Brandon Roberts et Nicolas Britel. Et enfin, Washington Black, musique de Cameron Moody. Là, j'avoue quand même, c'est un peu compliqué parce que on est vraiment dans des registres assez différents, quand même.
Ouais. Et moi, j'ai un petit faible. Alors après, je connais pas toutes tes partitions, mais j'ai un petit faible pour Le Guépard. Voilà.
Ouais. Mmh. Oui, c'est vrai que Le Guépard.
Il y a vraiment une, je dirais, une osmose harmonique dans ce qu'il a pu faire. C'est vraiment un pur joyau. On peut penser d'ailleurs à. C'est un peu Morriconesque. Parce que dans le choix, il y a des thèmes avec des chœurs. Enfin, c'est vraiment assez bien travaillé.
Allez, on va parier sur Le Guépard. Et puis, une récompense va être remise également aux éditeurs, aux labels discographiques, parce que c'est important, c'est les labels qui nous font vivre et aimer la musique de film aussi. Donc, la meilleure réédition de l'année 2025.
D'accord.
Alors attention, là c'est des rééditions.
Il y a certainement Varese Arabande parce que...
Ah oui, mais alors il y a des titres, hein, donc des films.
Il y a des films, oui.
Alors il y a des films. Alors,
je pensais que c'était un label sur un plan général.
Il y a un label qui va être récompensé au travers d'une de ces rééditions, bien sûr. Hein.
Ouais.
Alors voici donc les nominés pour la meilleure réédition de l'année 2025. Dark Crystal, la musique de Trevor Jones, un album produit par La La Land Records. Flatliners. Alors Flatliners, le titre français c'était comment déjà? Tu sais le film ça m'échappe, Laurent regarde. Flatliners, musique de James Newton Howard. C'est un album paru chez Intrada Records. C'est un film fantastique avec Kiefer Sutherland. Il y avait également Julia Roberts, me semble-t-il, dans ce film. Expérience interdite. Je crois que c'était Expérience interdite. Tu me diras.
L'expérience interdite.
L'expérience interdite. Oui. Autre réédition nommée dans cette catégorie, Gladiator, musique signée Hans Zimmer et Lisa Gerrard. Là, c'est La La Land Records. Les Dents de la Mer, de John Williams, c'est paru chez Intrada. Et Au Service Secret de Sa Majesté, là aussi une parution La La Land. Alors moi, en ce qui me concerne, ce serait Au Service Secret de Sa Majesté. Je trouve, alors c'est un double album, le son est remarquable, ils ont vraiment très très bien restauré la partition. En plus, il y a beaucoup d'inédits. Et en plus, c'est quand même peut-être l'une des meilleures musiques de James Bond, en tout cas un des meilleurs une des meilleures partitions de John Barry pour la franchise de James Bond.
Alors de ce côté-là, je te rejoins. L'autre surprise, parce que c'est un film, une partition qui s'est fait relativement rare, c'est L'Expérience interdite.
Voilà. Ouais.
Donc là, pour le coup, j'hésiterais entre ces deux-là. Parce que pour le reste, Gladiator, oui, mais bon, il y a eu quand même pas mal.
Il y a eu pas mal d'éditions déjà.
Voilà, tout à fait. Les Dents de la Mer, c'est pareil.
Oui, il y en a eu tout un paquet aussi.
Donc, franchement, moi, je pencherais plutôt pour Flatliners ou
Expérience interdite chez Intrada.
Oui, chez Intrada. Oui.
Bon, bah écoute, en ce qui me concerne, c'est au service secret de Sa Majesté. On va attendre le 26 février, on saura. Et enfin, dernière catégorie. Alors là, il y a des choses intéressantes aussi. Ce sont les réenregistrements. Ah oui, parce que certains labels n'hésitent pas à réenregistrer des musiques de films qu'on croyait perdues éventuellement. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Abbott et Costello contre Frankenstein. C'est une musique signée, alors ils sont plusieurs, hein, Frank Skinner, William Lava, Henry Mancini, Herman Stein, musique interprétée par le Royal Scottish National Orchestra, dirigé par William Stromberg, et ce réenregistrement a été produit par Intrada. Autre réenregistrement, The Chairman de Jerry Goldsmith, toujours chez Intrada. Alors là, c'est pas un réenregistrement, mais c'est un concert qui a été capté. Debbie Wiseman, Music for Film and Television. C'est donc une captation du Festival International de Gand. Musique de Debbie Wiseman. C'est l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles, dirigé par Dirk Brosset, et c'est paru chez Silva Screen. Howard Shore Anthologie, là aussi c'est une captation des concerts qu'Howard Shore a donné à Paris. Donc c'est l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Ludwig Vicky et Bastien Thiel. C'est paru chez Deutsche Grammophon. Et enfin, un triplé avec trois films de télévision, Poursuite, Crawl Space et The People Next Door, musique de Jerry Goldsmith, interprétée par le Philharmonique de Prague, sous la direction d'Adam Clemens, et c'est paru chez Intrada. Voilà, donc en ce qui me concerne, j'avoue que j'ai beaucoup aimé le Chairman de Jerry Goldsmith, et également le concert Debbie Wiseman. Donc là, j'avoue que je suis un petit peu partagé. Je dirais quand même Chairman de Jerry Goldsmith, c'est mon pronostic.
Oui, le choix est très cornélien.
Oui, parce que c'est vrai qu'alors Howard Shore, c'est un peu plus... c'est bien. C'est peut-être un petit peu plus austère, un peu plus difficile d'écoute quand même.
C'est un peu l'univers Goldenthal, c'est-à-dire c'est assez cérébral comme musique.
Ouais, ouais.
Alors bien sûr il y a des partitions qui sont très accessibles, mais c'est vrai que son univers est quand même pas facile d'écoute pour en tout cas un non initié.
Voilà. Non, et puis je pense que en termes de le Chairman, hein, c'est en question, comme la musique a été reconstruite, donc il y a quand même une démarche un petit peu différente.
Oui, et puis il y a un gros travail derrière.
Bon, eh bien, mon cher Laurent, voilà, on aura les résultats de ces récompenses décernées par l'Association internationale des critiques de musique de film le 26 février. Donc, on vous donnera évidemment, on verra si nos pronostics se sont avérés justes ou pas du tout. Alors, puisqu'on parle de musique de film, on va peut-être en écouter une pour commencer cette émission, comme il est de coutume d'ailleurs. Donc je me tourne vers toi, Laurent. J'ai un petit peu dérangé tout à l'heure dans tes diverses manipulations à la technique.
Juste avant de débuter l'émission, on a parlé de la disparition de Michel Portal.
Oui.
Et en fait, on vient d'apprendre la disparition d'un grand acteur, réalisateur, producteur américain, à l'âge de 95 ans. Qui a eu une très très longue carrière au cinéma et à la télévision.
Je crois savoir de quoi tu vas parler.
Sa première apparition était dans un épisode d'Armstrong Circle Theater en 59. C'est Robert Duvall qui nous a quittés aujourd'hui. Et donc c'est une grande perte pour le cinéma parce que c'est un acteur extrêmement complet et qui a fait une carrière phénoménale. Et on peut pas dire que dans sa carrière il y ait eu vraiment je dirais une traversée du désert. C'est vraiment un homme assez complet et qui a eu un choix en tout cas artistique toujours à bon escient. Et donc
Oui, parce que c'est vrai qu'il a joué dans beaucoup de films qu'on aime, qui ont été des succès, mais aussi, pas seulement des succès populaires, mais artistiques aussi. Hein,
donc, oui, oui. Alors, on l'a vu, alors, en plus, dans des, quand on parle du petit écran, il vient dans des grandes séries aujourd'hui d'anthologie, comme Alfred Hitchcock présente, La quatrième dimension, Au-delà du réel, pardon, La nouvelle équipe, Eisenhower. Et donc, et aussi, n'oublions pas une excellente série. C'est vrai qu'on vous diffuse assez régulièrement la musique de Polydoris pour cette série. C'est Lonesome Dove, ouais. Qui était vraiment, vraiment magnifique.
Un western, et d'ailleurs, il a joué aussi dans un très beau western, Open Range, aux côtés de Kevin Costner.
Tout à fait.
Un de ses meilleurs rôles.
Alors, j'allais aborder le cinéma, mais bon, le cinéma, premier film. Qui en fait aussi est un grand classique, c'est du silence et des ombres en 62 aux côtés de Gregory Peck.
Ah oui.
Mais il y a aussi il a tourné autour de enfin à côté aux côtés pardon de Steve McQueen en 68 avec Bullitt, $100 pour un shérif avec John Wayne, enfin MASH, Le Parrain, Jesse James, Sherlock Holmes attaque l'Orient Express, Apocalypse Now, voilà. Et puis on se souvient de, même si c'est pas un grand film, mais Jour de tonnerre aux côtés de Tom Cruise. Mm-hmm. Il renouvellera d'ailleurs son association aux côtés de The Reacher. Voilà, donc.
Oui, également ce film avec Michael Douglas, Chute, c'est quoi c'était Chute Libre.
Chute Libre.
Ouais.
Il y a aussi eu Amour et Mensonge avec Julia Roberts.
Oui. Je me souviens aussi de ce film.
La couleur du destin.
THX 1138 de George Lucas.
Tout à fait. Deep Impact, Préjudice, voilà. Enfin.
Non mais voilà, c'était un géant. Et ah ben écoute, on commence, on a quand même un peu plombé, le moral est plombé quand même, hein, parce que avec Michel Portal et Robert Duval maintenant, voilà. Mais de toute façon, on aura l'occasion d'évoquer très certainement dans nos émissions la figure de Robert Duval, parce que il nous a accompagnés et il continuera de le faire à travers les films qui seront certainement réédités, et puis les musiques de ces films également, qu'on nous passera.
Ouais, ouais. On va entamer donc musicalement Cinéscopie ce soir avec une musique de thriller, mais vous allez être un petit peu surpris par la musique, parce qu'elle est composée par Michael Dana pour ce film Bridge, ou Agent Double, hein, le titre français. Aux côtés de Chris Cooper, eh bien, on peut retrouver Ryan Phillippe, Laura Linney, Dennis Esberg, Caroline Davernas, Gary Cole, Kathleen Quinlan et Bruce Davidson. Musicalement, Michael Dana, pour ceux qui le connaissent, eh bien, c'est un compositeur qui adore en tout cas la musique extrêmement dépouillée. Ça fait penser un petit peu à du Priester. Voilà, c'est assez intimiste comme musique. Et vous allez le découvrir à travers ce thème de Bridge, qui dure à peu près 4 minutes 30, qui est un pur joyau musical, comme il en a fait beaucoup Michael Dana. Voilà, c'est peut-être une première d'ailleurs dans Cinéscopie, je crois qu'on ne vous l'a peut-être pas diffusé.
Je crois que c'est un inédit dans l'émission.
Ouais. Et donc on se retrouve juste après pour vous parler des nouveautés sur le support physique. Tout de suite, la musique de Bridge, composée par Michael Dana.
Thank you.
rubrique vidéo.
On ne se lasse pas de cette musique de James Horner, franchement, pour la rubrique vidéo. Alors, la rubrique vidéo, alors, y a un giallo qui est, ça y est, qui est sorti, on vous l'avait annoncé depuis de longues dates déjà, c'est La Tarentule au ventre noir, film de Paolo Cavara, avec un casting incroyable. Giancarlo Giannini et à ses côtés les plus belles actrices du cinéma italien de l'époque, à savoir Barbara Bach, Stefania Sandrelli, Claudine Auger, Rossella Falk, j'en passais des meilleurs. Superbe casting pour ce film qui paraît donc en 4K. C'est Carlotta qui nous le propose. Et c'est vrai que c'est un film de 1971 qui est réalisé évidemment dans la foulée de L'Oiseau au plumage de cristal. Énorme succès pour ce film de Dario Argento. Alors ce qui fait que évidemment, les producteurs avisés vont tenter de s'engouffrer dans le filon. Et La Tarentule au ventre noir fait partie quand même de ces quelques réussites du giallo transalpin. Donc je vous conseille le film. Alors, paru chez Carlotta, je l'ai regardé ce week-end. C'est vrai que je suis un petit peu déçu quand même par le transfert. Je trouve que le film manque un petit peu de peps, de luminosité. Je sais pas. Il faudrait qu'ils revoient leur master. Je sais pas. Chez Carlotta, il y a quelque chose un peu qui manque. Mais c'est dommage parce que franchement, le film, alors, l'image reste correcte, hein, quand même. Soyons clairs. Vous pouvez vous procurer ce film. Et surtout si vous aimez les gialli, les thrillers italiens, parce que c'était quand même une pièce manquante. Et elle est là et avec nous. En plus, il y a une très bonne musique d'Ennio Morricone dans ce film. Alors, dans les nouveautés, qu'est-ce que nous avons ? Alors, ben là, vraiment une curiosité. Je vais vous parler de deux films édités par les éditions Montparnasse. Un des films qui, on peut dire que ce sont des séries B, voire même plutôt des séries Z, il faut bien le dire, mais ce sont des films dont les affiches m'avaient marqué lorsque les films étaient sortis à la fin des années 70, début des années 80. C'était l'époque où je n'avais pas encore l'âge d'aller voir ces films. Mais bon, voilà, ces affiches dessinées m'avaient fait un petit peu fantasmer. Et je crois qu'il y a pas mal de cinéphiles, de cinéphiles de ma génération qui, justement, ont eu envie de découvrir ces films à cette époque et qui sont désormais disponibles en Blu-ray. Alors, je veux parler de deux péplums érotiques, à savoir Caligula et Messaline et les aventures sexuelles de Néron épopée. Donc ce sont les éditions Montparnasse, c'est un peu surprenant parce que les éditions Montparnasse sont plutôt habituées à sortir des classiques du cinéma. Mais là, bah, ce sont deux curiosités vraiment réalisées. Alors les deux films sont réalisés, alors Caligula et Messaline, me semble-t-il, est réalisé par Antonio Passalia, et le deuxième, Les aventures sexuelles de Néron et Poppée, par Bruno Mattei. En fait, il faut dire quand même que les deux films sont quand même chapeautés par Bruno Mattei, qui est connu pour être un des plus mauvais réalisateurs du cinéma italien, on va pas se le cacher. Mais alors là, voilà, ce sont deux films de deux péplums érotiques, assez osés quand même, et qui ont été tournés là aussi dans la foulée d'un succès du cinéma italien de cette époque, c'est le Caligula de Tinto Brass. Et d'ailleurs, le film, ces deux films réutilisent des bouts de décor de ce qu'a été la superproduction de Tinto Brass, parce que c'est quand même le film de Tinto Brass a eu un budget conséquent avec des acteurs prestigieux. Là, évidemment, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Les acteurs ne sont pas très prestigieux. Me semble-t-il que dans les aventures, je sais plus si c'est dans les aventures sexuelles de Néron ou dans Caligula, il y a Piotr Stanislas. Alors Piotr Stanislas, c'est un acteur bien connu des amateurs du cinéma pornographique, puisqu'il a énormément joué dans les films X français des années 70-80. Et comme c'était un acteur bisexuel, on a pu le voir non seulement dans des films hétéros, mais aussi dans des films gays, voilà, homosexuels. Donc Piotr Stanislas, un des acteurs principaux de ces péplums érotiques. Il y a quand même Françoise Blanchard dans un des films, voilà, qui relève un petit peu le niveau. Mais voilà, ce sont des films, voilà, qui méritent quand même d'être vus, voilà, qui témoignent aussi d'une certaine époque. Voilà, Caligula quand même avait beaucoup inspiré le cinéma. Je me souviens aussi d'un Caligula sous-titré La véritable histoire, réalisé par Joe D'Amato, qui était un film là aussi érotique, mais également avec dans certaines versions, des scènes carrément hard. Voilà. Donc, vous pouvez procurer ces films aux éditions Montparnasse. Je vous rappelle les titres, Caligula et Messaline, et Des aventures sexuelles de Néron et Poppée. Et je me souviens aussi d'un autre film qui devait s'intituler Messaline, impératrice et putain. Voilà, donc voilà, tous ces films ont enchanté nos écrans dans les années 70-80. Alors, qu'est-ce qu'on peut se procurer actuellement dans nos bacs? Eh bien, tout d'abord, un film intitulé The Prize Fighter. Un film qui nous entraîne au tout début du 19e siècle. Nous suivons le parcours personnel et professionnel d'un jeune boxeur originaire de Bristol, venu faire carrière à Londres. C'est un biopic qui traite donc de la naissance de la boxe anglaise à travers le destin d'un authentique champion dont la courte existence fut jalonnée de victoires mais aussi d'excès. Alors un film intéressant aussi de par sa distribution, puisque l'on y retrouve deux magnifiques comédiens, Ray Winstone et Russell Crowe. Alors attention, Russell Crowe fait une apparition relativement limitée dans le film, mais rien que pour Ray Winstone, le film mérite d'être vu. Le film est disponible chez BQHL, c'est un Blu-ray simple. Il n'y a pas énormément de bonus, c'est juste une présentation du film et de son personnage principal par un spécialiste français. Et sinon, en termes d'image, voilà, c'est correct, mais voilà, c'est pas non plus à se jeter par la fenêtre, mais c'est un film qui mérite d'exister, qui mérite d'être vu. Voilà, avec Russell Crowe, Ray Winstone, The Prize Fighter, c'est disponible actuellement dans les bacs. Je ne crois pas qu'on en ait parlé de ce Prize Fighter. Alors, également disponible dans les bacs, un très beau coffret que je vous conseille très vivement. C'est le coffret, Histoire de fantômes chinois. C'est édité par HK Vidéo. Ce sont des films produits par Choi Ark. Le premier film, je crois, date de 1987. On y suit un jeune collecteur d'impôts qui trouve refuge dans un temple réputé pour être hanté et qui tombe follement amoureux d'une femme qui s'avère être un fantôme, bien sûr. Alors, c'est une trilogie et les trois films sont réunis dans ce très très beau coffret. Techniquement, rien à redire. Les transferts sont vraiment superbes. Il y a des bonus assez passionnant, notamment avec l'intervention de Christophe Gans, parce qu'on sait que Christophe Gans, c'est un très grand, un passionné, on va dire, du cinéma asiatique. Donc je vous conseille ce coffret qui est un petit peu onéreux, mais enfin, je pense que quand on aime la belle image et le cinéma asiatique, on ne peut pas passer à côté de ces fantômes chinois. Et alors, un film qui a un petit peu disparu de la circulation et qui revient en Blu-ray, je sais pas si tu en avais parlé, Laurent, j'ai un doute, c'est une comédie de Ron Shelton, Duo à trois. L'histoire d'une femme mûre, fan de baseball, et qui va hésiter entre deux joueurs. Alors, cette femme est interprétée par Susan Sarandon, et les joueurs en question, c'est Kevin Costner et Tim Robbins. Donc voilà, une belle distribution pour cette comédie, qui est sympathique, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais enfin bon, on peut quand même se laisser tenter par ce duo à trois et par ce casting de rêve. C'est à signaler d'ailleurs que la musique est signée Michael Convertino, qui est un compositeur intéressant, puis qui a un petit peu disparu de la circulation, malheureusement, voilà, donc c'est comme ça. Histoire de fantômes chinois, duo à trois, ce sont mes recommandations. Mais quand même, j'allais oublier, et c'est important, parce que ce film-là, je l'adore. C'est un film d'horreur, un film, peut-être un des meilleurs films de Wes Craven, et un des meilleurs films de cette franchise, c'est Freddy sort de la nuit. Alors, qui est disponible, attention, dans un coffret qui est paru il y a quelque temps déjà, qui peut être en édition limitée d'ailleurs. Donc, il est peut-être pas disponible partout. C'est un coffret qui comporte sept Blu-ray en UHD, ainsi qu'une paire de lunettes 3D anaglyph, parce que dans le dernier film, il y a une section en relief. Donc ça permet de voir le film en relief. Et dans ce coffret, il y a Freddy, Sort de la nuit, le film de Wes Craven. Alors ça, c'est un film méta, c'est-à-dire que dans ce film, Wes Craven joue son propre rôle, on le voit tourner un nouveau Freddy, alors que le Freddy en question tente d'entrer dans le monde réel. Donc ça, c'est vraiment un concept assez intéressant. Et le film m'avait vraiment plu parce que, on était, à part le premier Freddy, le film, enfin, les Freddy progressivement avaient dérivé vers une sorte de comédie. C'est-à-dire que Freddy ne faisait vraiment plus peur. C'était devenu, voilà, un personnage un peu grotesque comme ça, mais avec des idées. Bon, il y avait dans les films des idées assez délirantes, mais enfin, c'était plus délirant que véritablement effrayant. Et là, Wes Craven revient aux sources, et dans ce Freddy sort de la nuit, eh bien, Freddy est à nouveau véritablement inquiétant. Et alors, ce qui m'avait plu également, c'est qu'on retrouvait dans ce film, eh bien, l'actrice du premier volet, que j'adore, Heather Langenkamp. Donc, si vous tombez sur ce Freddy sort de la nuit, n'hésitez pas à vous le procurer. Il est en ultra haute définition. Il est accompagné d'un Blu-ray standard, bien sûr, et de toute une palanquée de bonus. En termes d'image, eh bien, pas de souci. Voilà. Donc, une très belle image. Et je vous conseille le coffret. Mais c'est un coffret relativement onéreux. Attention, hein, il faut mettre la main au porte-monnaie. Mais je vous le conseille très fortement. Et enfin, je crois que là, par contre, on a parlé, mon cher Laurent, mais je préfère quand même le rappeler. Restons dans le cinéma fantastique avec la réédition de The Mist, le film de Frank Darabont avec Thomas Jane, Marcia Gay Harden et Laurie Holden. The Mist, qui est donc une adaptation de Stephen King. Un homme et son fils se retrouvent coincés dans un supermarché, environnés par un brouillard peuplé d'étranges créatures. Donc vraiment un très beau film, avec une fin assez éprouvante d'ailleurs, qui va vous marquer, je pense, si vous ne connaissez pas le film. Et alors, la particularité de cette édition proposée par l'Atelier d'Images, c'est que tout d'abord, nous avons le film en ultra haute définition, dans sa version couleur, celle que nous connaissons, mais aussi dans une version noir et blanc. Alors je ne l'ai pas encore vue, cette version noir et blanc, je ne sais pas si elle apporte beaucoup, si elle change un peu le regard qu'on a sur cette histoire, mais en tout cas, je crois que The Mist, c'est quand même une des plus belles adaptations de Stephen King au cinéma. J'adore ce film, donc je vous le conseille très, très fortement, très chaleureusement. Voilà. Et puis pour le fun, n'oubliez pas nos petites aventures sexuelles de Néron et Popée et Caligula et Messaline. Voilà, petite sélection du jour, mon cher Laurent. Je te laisse le micro.
Eh bien, vu que tu parlais de des films un petit peu sensuels.
Oui.
Alors, on va parler d'un premier film réalisé par Louis Malle, édité par Sidonie, me semble-t-il. Voilà, c'est ça, oui. Avec Brooke Shields, Suzanne Sarandon et Cass Carradine. Film qui a été déconseillé aux moins de 16 ans. Réalisé en 1977, ça s'appelle La Petite ou Pretty Baby. Donc on est en 1917 à la Nouvelle-Orléans et l'histoire d'une enfant de 12 ans vivant dans un bordel de luxe avec sa mère et qui s'éprend d'un photographe. Voilà. Et donc sous ces airs de films à scandale inconcevable de nos jours, où le cinéaste n'hésite pas à mettre en scène avec réalisme et crudité les premières expériences amoureuses d'une préadolescente, eh bien, La Petite est une œuvre sur la perte d'innocence et le passage à l'acte adulte, un tableau âpre et complexe de la prostitution soutenu par une étonnante prestation de l'alors quasi débutante Brooke Shields. Voilà. Donc, dans une édition combo Blu-ray DVD, avec quelques petits bonus, avec une présentation assez remarquable du film par une spécialiste qui insiste à bon escient sur sa réputation sulfureuse et les intentions de son auteur. Et donc, inclus dans cette édition-là, il y a un livret d'infos qui accompagne donc ce film. Et donc, c'est sorti le 14 février, donc voilà, c'est déjà disponible. Et on continue, alors un petit peu dans la même veine, un film qui me semble-t-il passé assez inaperçu, même au niveau des médias. Il y a un éditeur qui, certainement, il y a fort longtemps d'ailleurs, avait déjà eu une salve de films un petit peu sensuels, érotiques. C'est LCJ Édition. Et là, en fait, régulièrement, sort quelques films par-ci, par-là, c'est-à-dire qui, en fait, il récupère en fait son fonds de catalogue qu'il avait sorti en DVD, et donc là, il nous invite à découvrir ces films en haute définition.
Je suis intrigué.
Et donc, il y a un film qui, en tout cas, a attiré mon attention. C'est un film de 1975 qui a été réalisé par Radley Metzger.
Ah oui, un spécialiste du cinéma érotique.
Voilà, avec Marie Mandum, Carl Parker, Marilyn Roberts. Et donc c'est une adaptation d'un roman de Catherine Roby-Grillet qui s'intitule L'Image.
Ah, oui.
Et donc le film, qui est un film dramatique, romance, s'intitule L'Esclave. Et donc, qui raconte en deux mots le pitch. Lors d'une soirée mondaine, eh bien, Jean rencontre Claire, une vieille amie qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, et elle est accompagnée d'une belle et jeune femme, Anne, qui ne dit mot et lui obéit au doigt et à l'œil, et qui fait forte impression à Jean. Et rapidement, Jean va être impliqué dans la relation de domination-soumission qui lie en fait les deux femmes. Alors c'est un film qui est souvent décrit d'ailleurs comme une exploration stylisée et provocante des relations sensuelles et des dynamiques de pouvoir. Et il s'est démarqué d'ailleurs des productions purement sensuelles de l'époque par une esthétique soignée et une narration plus élaborée, caractéristique d'ailleurs du travail de Metzger dans le cinéma. Et donc, à sa sortie en France en 1975, eh bien, L'Esclave fut interdit à cause de son contenu controversé. La commission d'ailleurs de contrôle des films avait estimé que ces représentations portaient atteinte la dignité humaine. Il est devenu d'ailleurs une œuvre culte du cinéma classique. Et donc, L'Esclave est une adaptation du roman, donc, comme je le disais, L'Image, sorti en 1956, écrit par Catherine Robbie-Grillet, publié sous le pseudonyme Jean de Bergue. Et le livre est une œuvre marquante de la littérature sensuelle française autour des thèmes domination-soumission qui a fortement influencé le film. D'ailleurs, le film est l'une des plus belles adaptations du texte, avec une structure plus explicite et une esthétique très contrôlée. Voilà. Oui. Donc c'est sorti chez LCJ et c'est dispo. Voilà.
Oui, c'est intéressant parce qu'en plus, ce film était sorti l'année dernière aux États-Unis, dans un très beau coffret d'ailleurs. Et René Metzger, il faut savoir que c'est quand même donc il a œuvré essentiellement dans le cinéma érotique, mais aussi pornographique, mais toujours avec un soin tout particulier apporté à les mises en scène. Et ce qui fait d'ailleurs que ces films, même sous son pseudo de réalisateur porno, sont quand même se laissent voir avec plaisir entre guillemets. Oui, parce que... Non mais voilà. Non mais à voir. Non, c'est franchement intéressant cette histoire de d'image là, d'esclave. On va se pencher sur la question.
Alors, on espère beaucoup parce que alors dans ce registre, hein, c'est il faut toujours resituer dans le contexte.
Ah, toujours. Ouais.
Mais on espère parce que en fait, on fait toujours référence à Max Pécasse.
Oui.
pour des films vraiment de seconde zone.
C'est vrai.
Mais il en a fait quand même d'assez réussis. Mmh. Et en tout cas dans le cinéma érotique. Et il y en a un qui, je ne sais pas s'il va être annoncé, mais enfin, il fait partie du catalogue de LCJ Édition. Donc on peut penser que bien dans les mois qui viennent, il y aura une édition aux définitions. C'est le film Luxure. Voilà. Qui est une assez belle réussite, en tout cas, de Max Pécasse.
Tout un programme, en effet. On l'attend avec impatience.
On vous en dira un petit peu plus lorsque le film sera annoncé.
Voilà. Également une nouveauté, mais chez nos amis anglo-saxons, un classique du X américain, Debbie Does Dallas. En gros, Debbie se fait Dallas. Donc un film qui se passe dans le milieu du sport, du football américain. Et voilà, c'est un film qui est un film culte. Il y a même eu une suite d'ailleurs.
Je pensais que c'était dans le milieu des pétroliers.
Ça aurait pu, mais enfin, c'est pas les mêmes pompes.
Voilà. Oui. Là, c'est l'or noir, oui, pour le coup. Et là, c'est plutôt l'or blanc.
Totalement.
Alors, on va changer totalement de registre.
Oui.
Parce que là, on va aborder le film, plutôt le drame. Ah oui. Mais un excellent film, en tout cas. Moi, j'aurais mis dans le palmarès des 10 films de l'année dernière. De par déjà la prestation de son acteur principal, qui n'est autre que Théodore Pellerin. Le film a permis à cet acteur de recevoir le prix de la révélation à la dernière semaine de la critique cannoise. Et donc, ce film a été réalisé par Pauline Lokes, donc avec Théodore Pellerin, William Lebgill, Salomé De Wells. Et donc du coup le film s'intitule Nino. Vous ne l'avez peut-être pas vu. C'est vrai que le film est passé un petit peu inaperçu, hein, sur nos écrans. Il a été diffusé mais il n'est pas resté très très longtemps en salle. L'histoire de ce film, c'est qu'à la veille de son 29e anniversaire, eh bien, un jeune homme apprend qu'il est atteint d'un cancer de la gorge. Et donc concentré sur l'annonce brutale de la maladie et des 3 jours qui précèdent le début de la chimiothérapie, eh bien ce premier film évite soigneusement tout pathos pour se concentrer sur la sidération et l'incapacité d'un jeune adulte à révéler son cancer à ses proches. Et donc, c'est entre un échange lunaire avec sa mère, une discussion banale avec une ex et une rencontre improbable avec un patient respectivement incarné par Jeanne Balibar, Camille Rutherford et Mathieu Almaric, un portrait sensible et criant de vérité porté par la révélation québécoise Théodore Pellerin, parce que c'est pas un inconnu, c'est qu'en fait quand on le voit jouer, qui enfin, vraiment il supporte l'ensemble du film. À côté de cela, c'est un acteur qui a déjà pas mal bourlingué, en particulier au Québec, et qui a beaucoup tourné dans plusieurs films, et donc il a pu véritablement assouvir sa maîtrise du jeu d'acteur, et du coup ça donne eh bien ce qu'on peut voir dans Nino, parce que c'est vraiment criant de vérité, mais cette vérité elle est due quand même à 90% par l'acteur Théodore Pellerin. Donc vraiment c'est un film à découvrir, voilà. Alors on reste un petit peu dans cette lancée là alors là c'est, je dirais, c'est une interrogation. Je ne sais pas. C'est un film qui est sorti il y a fort longtemps. Il n'y a pas eu de support physique. Et là, l'éditeur se réveille et il nous sort un DVD, même pas un film en haute définition, alors que ce film-là fait un petit peu la part belle aussi à ces films qu'on a redécouverts, qui ont eu un grand succès comme Nouvelle Vague. Eh bien là, on est en plein dedans. C'est un film de Gaël Morel avec Victor Belmondo, Théo Christine, Lou Lampros. C'est Vivre, Mourir, Renaître, film de 2024. Et là, il débarque sans crier gare, en DVD. Et là, c'est, pour moi, c'est la surprise, parce que franchement, ce film aurait vraiment mérité de la haute définition, tellement ce film est réussi. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un jeune photographe séropositif qui entame une liaison passionnée avec un voisin, par ailleurs fiancé à une femme. Et donc, au diapason de la naïveté programmatique de son titre, eh bien, c'est avec une bienveillance délibérément candide que le film observe les merveilleux hauts et les poignants bas que traversent les attachants héros de cette fresque intimiste à laquelle leurs interprètes apportent une bien jolie sensibilité. Si l'ensemble peut-être manque un peu d'intensité, mais honnêtement, moi j'étais un petit peu transpercé par le jeu de tous ces acteurs, et c'est aussi une révélation à travers Théo Christine, que l'on connaissait pas énormément dans le cinéma français, et là qui véritablement est rentré sérieusement dans la cour des grands, et ce qui lui a permis d'ailleurs de faire des films quelques temps après. Et donc là, pour le coup, moi je vous invite vraiment à découvrir ce film-là si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment l'opportunité de le découvrir, malheureusement en DVD, chez ARP Sélection. Peut-être qu'un jour, il y aura une version haute définition. On continue, là on va parler de deux films pour en terminer. Le premier, c'est un film de Nicolas Rugg, réalisé en 1985, avec Teresa Russell, Michael Emil, Tony Curtis. La musique est signée Stanley Meyers et Hans Zimmer, c'était vraiment le début de Zimmer au cinéma, avec cette collaboration Stanley Meyers. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Hans Zimmer, ben il doit beaucoup, en tout cas à Stanley Meyers. Ça, c'est lui qui lui a mis un petit peu le pied à l'étrier pour développer tout son talent. Et donc là, c'est à travers ce film, Une nuit de réflexion, donc Insignifiance, qui raconte l'histoire d'une star de cinéma qui rencontre un savant génial sous le regard d'un joueur de baseball et d'un sénateur. Et donc, pour ceux que la sophistication intellectuelle ne rebute pas, eh bien ce film constitue une expérience d'autant plus stimulante que sa mise en scène, à la virtuosité hypnotique, lui confère une identité 100% cinématographique. Et donc, bien que jamais nommé, eh bien, ces clones de Marilyn Monroe, Albert Einstein, Joe DiMaggio, eh bien, le champion de baseball et époux de Marilyn, et de l'homme politique Joseph McCarthy, 6 livres à une captivante corrida sur la nature du temps, de la célébrité ou encore de la vieillesse, fil rouge d'un divertissement de haut vol dont on ressort aussi chahuté que ravi, et on le doit à l'éditeur Métropolitane. Voilà. Donc véritablement, ça c'est un pur bijou à découvrir dans une édition autant DVD que Blu-ray, sorti donc chez Métropolitane dans une facture technique tout à fait honorable, parce qu'il y a une assez belle restauration pour ce film de 1985. Et pour en terminer, on va terminer avec le cinéma britannique, et la réalisation est signée James Ivory pour un film de 1990, à la baguette, si je puis dire, toujours le même compositeur, c'est Richard Robbins, et on y retrouve alors là, une belle distribution avec Paul Newman, John Woodward, Kira Sedgwick, pour cette histoire qui se passe à Kansas City, pardon, dans les années 30 et 40. L'histoire d'un avocat rigide et sa femme dévouée qui traversent les saisons d'un mariage sans éclat, entre conformisme social, frustration silencieuse, enfants rebelles et routine quotidienne que rien ne semble pouvoir troubler. Et donc, c'est où, comment transformer le banal en émotion pure, sans drame ni éclat de voix. Tout se joue donc dans les gestes suspendus, les silences, les regards qui en disent trop ou pas assez. Mais ça, c'est vraiment l'univers ivorien, si je peux dire. Hein. Parce que James Ivory nous a habitués vraiment à des films d'éclat sur ce registre-là. Et donc, le scénario tisse patiemment donc les films, les fils invisibles d'un mariage que la vie a figé, mais dont chaque détail traduit la tendresse enfouie, la mise en scène d'une élégance souveraine qui scrute le quotidien comme un cristal. Rien n'y est anodin. Paul Newman et John Woodward incarnent avec une alchimie presque surnaturelle la distance et l'attachement mêlé de deux êtres prisonniers du temps. Un film étonnamment inédit jusqu'à présent, et le Blu-ray semble même être une exclusivité mondiale, donc pour tout vous dire. C'est un film d'une douceur poignante, suspendue entre grâce et lucidité, et on le doit pour une fois à BQHL, voilà, donc qui crée la surprise avec ce film.
Eh bien, merci Laurent pour tous ces conseils. Et voilà, le choix est éclectique. C'est à vous de jouer maintenant et de découvrir ces films disponibles pour la plupart déjà dans les bacs. Vous écoutez Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film, tous les lundis soirs de 20h45 à 22h30. Et on va faire une petite virgule musicale avant de vous parler des films que nous avons vus cette semaine, de vous donner des conseils, voilà, quels films vous pouvez aller voir en salle sans risque de vous tromper. Alors, Laurent, qu'allons-nous écouter maintenant ?
Eh bien, on va écouter la musique d'un compositeur allemand.
Ah, voilà. Alors. Oui, c'est un peu vague quand même.
Dans le registre néoclassique.
Oui.
Et on va se diriger vers la musique d'un film d'animation de SF en 2013. Ça s'appelait Le Congrès. J'avais adoré ce film.
Ah oui, 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 je vois. Oui.
Et la musique est signée Max Richter. Et on va écouter un titre alors, qui s'appelle Out of the Dark. C'est l'extrait. Alors, c'est du Max Richter comme on l'a connu initialement, hein, et qui est vraiment en grande réflexion musicale. Et donc, c'est une atmosphère, c'est ce qu'il faut se dire. Mais je n'ai pas tellement à présenter Max Richter parce que je crois qu'il a beaucoup de succès.
Oui, il est à l'affiche de Hamnet actuellement.
Tout à fait. Si vous avez aimé sa musique, qui est quand même très dépouillée, hein, dans Hamnet, c'est une ambiance. ambiance un petit peu sombre hein, aussi, mais où il y a quelques échos mélodiques. Et donc, c'est vraiment, en tout cas pour ma part, un pur joyau de la musique néoclassique. Voilà.
Très bien, nous allons écouter la musique de Max Richter pour le Congrès.
Les films de la semaine, ce soir.
La Reconquista de Jonas Trueba, un film avec Itzhaku Arana, Francesco Caril et Aura Guarido. Également ce soir, nous vous parlerons des Enfants de la Résistance, film de Christophe Baratier avec Gérard Jugnot, Artus. Et nous vous dirons peut-être un petit mot de Retour à Silent Hill de Christophe Gans, film avec Jeremy Irvine, Anna Anderson et Robert Strange. Eh bien, nous allons commencer peut-être par vous dire un petit mot des Enfants de la Résistance. Les Enfants de la Résistance, un film de Christophe Baratier, adapté d'ailleurs d'une bande dessinée. L'histoire donc de trois enfants qui, à leur manière, entrent en résistance dans un petit village au cœur de la France. Alors, on ne sait pas exactement où ça se passerait peut-être en zone occupée, puisque l'histoire se déroule pour l'essentiel en 1940. Et donc ces trois enfants âgés environ de 11-12 ans, ces enfants vont imprimer des tracts pour inciter finalement les gens à entrer en résistance. Voilà. Et leurs actions évidemment vont entraîner des conséquences dramatiques. On peut l'imaginer. Voilà, donc Christophe Baratier s'intéresse encore à cette France des années 30-40. Il avait déjà réalisé Faubourg 36, il avait réalisé également la Nouvelle Guerre des Boutons, on s'en souvient, et puis évidemment Les Choristes. Là donc il s'intéresse à cette drôle de guerre, en tout cas ce début de la guerre, 1939-1940, dans ce petit village. Et puis on va suivre donc une sorte de chronique familiale avec l'histoire de cette famille au cœur de l'histoire. C'est donc la petite histoire au cœur de la grande histoire. Voilà. On retrouve un beau casting dans ce film, avec en particulier Gérard Jugnot, mais surtout Artus qui a un rôle intéressant à défendre, un petit peu moins pour Gérard Jugnot, parce que Gérard Jugnot joue le rôle du curé du village. C'est un rôle un peu cliché. Bon, il le fait bien, comme d'habitude. Certains diront méchamment, Jugnot fait du Jugnot, mais bon. Non, mais franchement, il le fait pas mal, mais il n'a pas un rôle énormément écrit, et donc, finalement, il intervient un peu moins dans le film que dans, par exemple, Les Choristes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film, Les Enfants de la Résistance ? Que d'abord, c'est un film assez pédagogique. C'est-à-dire que c'est un film ciblé quand même pour les jeunes, en gros, les enfants entre le CM2, 6e, 5e, voilà. Et c'est vrai que du coup, le film est assez explicatif. Hein, on comprend bien tout ce qui se passe. C'est à la fois une des vertus du film, un petit peu un de ses défauts également, parce que tout est un peu trop écrit, surligné, on va dire même. C'est un petit peu le souci. Par ailleurs, Christophe Baratier, c'est un cinéaste qui est un cinéaste assez assez classique. C'est-à-dire qu'il fait une mise en scène, certains pourraient dire même un peu académique. Voilà. Donc c'est un peu ce qui fait là, c'est à la fois la qualité et le défaut du film. C'est-à-dire que le film peut être un peu sage dans sa réalisation. On aimerait que le film respire davantage, soit peut-être même parfois un peu plus lyrique, même peut-être plus sombre, plus glauque. Voilà, le film est quand même un peu sage, et dans sa réalisation, dans sa facture, un peu plan-plan. On en parlait avec Laurent tout à l'heure. On avait un peu la sensation tous les deux de voir un bon téléfilm de France 3. C'est vrai que ça fait un peu qualité, un peu SFP, hein, le film. C'est un petit peu gênant. Et même, des fois, on a l'impression que le film est un petit peu cheap. Hein. Alors, il y a bien quelques soldats, allemand, il y a des décors, mais bon, quand même, on a l'impression qu'aux entournures, le film est un petit peu cheap. Bon, cela dit, ça n'en fait pas un mauvais film, loin de là, mais c'est vrai qu'on aurait aimé que le film soit un peu à l'image de sa première séquence. Alors, dans le premier plan du film, on a, en fait, c'est un plan général sur le paysage, hein, c'est le lieu de l'action, voilà, où ça se passe, et puis la musique s'élève, là, sur ce très beau plan, une musique assez belle, avec un très beau thème, d'ailleurs, et puis il y a un mouvement de grue vers le bas, un travelling, et là, on tombe sur les enfants enfants en train de jouer au football devant l'église du village. Voilà, donc moi je me suis dit, voilà, le film va alterner des moments comme ça assez beaux, assez presque lyriques, avec la chronique finalement de ce village et la chronique familiale. Et en fait non, le film va rester assez plan-plan quand même globalement, et c'est un peu ce qu'on peut reprocher à ce film de Baratier, donc voilà, qui adapte quand même une bande dessinée. C'est intéressant, ça va intéresser, les, surtout, je pense, emmener vos enfants, parce que c'est quand même, je vous l'ai dit, un film où, voilà, où les repères sont bien donnés, quand même. Hein, donc, tout est bien fléché, un peu trop fléché. L'histoire même, d'ailleurs, bah, d'une certaine façon, est assez téléphonée, parce qu'on se doute bien de ce qui va se passer. Hein, voilà. Mais voilà, donc, la photographie du film, bon, bah, elle est pas mal, quand même. Les acteurs, dans l'ensemble, je trouve, Laurent trouvait que c'était pas forcément super, notamment les enfants, toujours très bien dirigés. Moi, je trouve qu'en tout cas, les trois enfants, les principaux, ceux qui mènent un petit peu l'histoire, ils sont plutôt pas mal. Ils sont, en plus, ils sont assez beaux, je trouve.
C'est du bon. Enfin, ils jouent assez bien, même tous. Hein, c'est pas le problème de.
C'est peut-être un peu trop appliqué, on va dire.
Du talent, c'est surtout que, en termes de direction d'acteur, je pense que, voilà, dans une facture assez. Peut-être trop scolaire d'ailleurs, qui fait que même si le film est la cible est plutôt, c'est ce qu'on disait hors antenne, eh bien les enfants du début du collège, fin de du primaire, voilà. Mais c'est vrai que les adultes auront peut-être un petit peu plus de mal dans cette, je dirais, dans cette réalisation, à mon avis, un peu trop académique, voilà.
Oui, c'est vrai. Donc c'est un film assez. Un peu appliqué, un peu scolaire, tu l'as dit, effectivement. Et alors quand même, moi je sauve quand même la photo, les enfants sont très beaux, voilà, c'est mieux. Et puis la musique, parce que je trouve que là, Philippe Rombi revient aux affaires, après cette misérable musique pour le film d'Halloween, cette tambouille électronique particulièrement moi qui m'avait révulsé, qui marche bien dans le film, hein, on peut pas dire. Dans le film, ça marche plutôt pas mal. Hein.
Bon, oui, bah, oui, mais voilà. Bon, voilà. Mais là, c'est assez fonctionnel dans le film,
oui,
d'Halloween.
Voilà. Et ici, donc, Philippe Rombi arrive et c'est lui qui va fournir vraiment le supplément d'âme, qui va un petit peu creuser tout ça. Et alors, moi, ce que j'aime avec Philippe Rombi, c'est que il crée des thèmes. Il écrit de la musique, c'est-à-dire que quand tu sors de la projection, t'as la mélodie dans la tête. Et ça, c'est formidable. C'est rare aujourd'hui dans le cinéma. Il n'y a plus de musique dans le cinéma. C'est que du sound design. Moi, ça m'énerve.
Non, mais c'est une très très belle réussite.
Ah bah oui.
Mais voilà, trop belle réussite en tout cas pour le résultat final cinématographique, je parle. Parce que ah oui. La partition est, à mon avis, et sera une partition incontournable en tout cas dans la carrière de Philippe Rombi, parce que je pense qu'elle va prendre une ampleur phénoménale, en tout cas en version live. Voilà.
En tout cas, moi je félicite Christophe Baratier d'avoir choisi à nouveau Philippe Rombi. Il lui avait fait confiance sur Le Temps des Secrets. Oui, oui. Il avait écrit là aussi une très belle musique. Et donc il revient et là il fait ce qu'il sait très bien faire, Philippe Rombi. Il est vraiment dans l'école française de la mélodie, un peu l'héritier spirituel, on l'avait dit, de Georges Delerue quelque part. Et des orchestrations. Voilà, tout ça c'est très très bien écrit, quoi, hein, voilà.
Donc, oui, c'est extrêmement fluide, voilà. Franchement, c'est une très très belle réussite musicalement,
voilà. Rien à dire. On a plus là par contre, les bémols concernent plutôt le film, on va dire, dans son ensemble. C'est pas non plus un mauvais film, c'est ce qu'on se disait aussi, hein, ça se laisse regarder, mais une petite déception quand même.
Disons que voilà, c'est quand on se déplace au cinéma, c'est pour voir vraiment du grand spectacle. Mmh. Et là, c'est vrai que on est quand même en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'une œuvre de cette trempe-là, en tout cas.
Alors maintenant, on va changer de registre avec un film que tu as beaucoup apprécié, Laurent d'ailleurs. C'est La Reconquista. Un film espagnol que l'on doit à Jonas Trueba et qui... alors, tu l'as beaucoup aimé, je crois que tu n'es pas le seul, parce que je crois que la critique dans l'ensemble est assez dithyrambique.
Oui, mais bon... moi, je connaissais deux noms comme ça, mais je ne connaissais pas l'œuvre, en fait, de Jonas Trueba. Et au mois de février... Et jusqu'au 10 février, c'est un petit peu dommage, hein, j'ai manqué cette rétrospective. Eh bien, il y a une rétrospective intégrale de son œuvre à l'initiative conjointe d'ailleurs du Centre Pompidou et du cinéma parisien NK2 Bibliothèque. Et donc, il célèbre en fait ce cinéaste. Et au fil d'une dizaine de films, qui a tout particulièrement brillé dans l'art du récit du sentiment amoureux, du premier coup de foudre à la séparation. Et donc, ce qu'il faut savoir pour essayer de resituer la Reconquista dans l'œuvre en fait de Jonas Trueba, eh bien, c'est qu'en fait, Arizona Distribution a la riche idée de sortir en fait ce film, qui est un inédit et qui date de 2015. Donc, voilà. Et donc, franchement, on se demande d'ailleurs pourquoi ce film a végété, n'a pas été distribué, parce que, en tout cas, enfin, pour moi, c'est vraiment une belle réussite. Alors, que raconte en fait ce film ? Eh bien, il raconte l'histoire de Manuela et d'Olmo. Et donc, ils se retrouvent autour d'un verre après des années d'éloignement. Et ce soir-là, Manuela tend à Olmo une lettre qu'il lui a écrite 15 ans auparavant, lorsqu'ils étaient ados et vivaient ensemble leur premier amour. Et donc, la Reconquista se déploie alors en deux temps. D'abord, la nuit qui suit cet échange, où ils décident, dans une forme de parenthèse enchantée, de vivre l'avenir qu'ils s'étaient promis et de vérifier si les occasions perdues peuvent se rattraper. Puis, un flashback à 15 ans plus tôt pour voir si la mélancolie du temps passé n'a pas enjolivé leurs souvenirs. Et comme dans la trilogie Before Sunrise de Linklater, eh bien, cette façon de disséquer le sentiment amoureux dans un gestes où sensorialité et cérébralité ne font qu'un, se révèle un pur délice. Je dirais que ce film-là, eh bien, c'est une sorte de gourmandise. C'est un bonbon extrêmement sucré. Franchement, c'est un grand plaisir que de découvrir, parce qu'il y a cette maîtrise de Jonas Trueba de faire transparaître à travers l'écran tous ces sentiments de ces deux protagonistes. Donc c'est pas du tout surfait, et c'est pas le monde des bisounours non plus, mais franchement il y a une certaine réalité et poésie à travers ce film là franchement, c'est une belle réussite. Que ce soit d'ailleurs, là encore, musicalement, j'ai découvert un artiste là, qui chantait des musiques espagnoles, des chansons espagnoles qui étaient vraiment assez magnifiques. Il y a un ensemble, il y a un univers, une atmosphère pour lesquels, je pense, le public ne s'y est pas trompé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce film marche. Le seul petit coup de gueule que je pourrais te dire, c'est qu'en fait, pour un film et une nouveauté, et le film n'a pas décollé des plus petites salles des cinémas Limougeaux. Alors ça, par contre, c'est incompréhensible, parce que voir, ce genre de film sur un écran qui se résume à un confetti aujourd'hui, dans ce qu'on peut attendre d'une projection cinématographique, c'est quand même un petit peu décevant, même beaucoup décevant.
Voilà, en tout cas, La Reconquista, film vraiment à découvrir si vous n'avez pas vu. Allez-y vite avant qu'il ne disparaisse des écrans.
Oui, parce qu'en plus, on y découvre l'actrice fétiche de Jonas Trueba, qui est vraiment assez magnifique hein, quand même, c'est Itzao Arana, au passage.
Très bien, alors un petit mot maintenant, rapidement, parce qu'il est déjà 22h25 à la pendule de RTF, pour vous parler du film de Christophe Gans, Retour à Silent Hill. 20 ans après Silent Hill, Christophe Gans retourne dans sa ville fantôme, mais là il change de focale. Là où le film de 2006 suivait une mère affrontant un enfer mythologique, Retour à Silent Hill se replie sur un homme seul, James, attiré par le souvenir d'une femme qu'il a aimée. Il croit la retrouver dans les brumes de la cité. Il va en fait se perdre. Silent Hill n'est donc plus seulement un lieu maudit, c'est une psyché en ruine. Et c'est là l'intérêt du film, c'est-à-dire que finalement, Silent Hill, c'est la projection mentale finalement du personnage principal, James, interprété par Jeremy Irvine. C'est un film assez étrange, vous allez me dire on est dans Silent Hill, mais en fait qui pour moi s'apparente un petit peu au mythe d'Orphée et Eurydice. Vous savez, le personnage d'Orphée qui veut retrouver sa femme aux enfers, et donc il descend aux enfers et il obtient la possibilité de faire revenir sa femme avec lui, mais donc elle va, il faut qu'il remonte dans le monde des vivants sans jamais se retourner. Et en fait, à la fois pour être sûr que sa femme le suit bien et parce que il est impatient de la retrouver, malheureusement il ne tient pas sa promesse jusqu'au bout, il se retourne et sa femme disparaît complètement aux enfers. Donc il y a un petit peu de ça dans Silent Hill, et du coup c'est un film assez mélancolique. C'est finalement, et c'est peut-être pour ça que le film se plante auprès du public et auprès de la critique en général. Il y a un bashing contre ce film assez invraisemblable. Alors, parce qu'en fait, je pense que les gens s'attendaient à un film d'épouvante pure. Et en fait, non, c'est pas vraiment ça. On se promène vraiment dans la psyché du personnage. Voilà. Et voilà. Et alors, il y a une histoire qui est développée en flashback, qui peut intéresser ou pas. D'ailleurs, moi, ça m'a plutôt intéressé parce qu'il y a un petit côté Rosemary Baby d'ailleurs dans le film. Je ne vais pas vous en dire davantage, mais enfin, je trouve ça plutôt intéressant. Et puis, avec une fin également, je trouve assez astucieuse. Alors, bon, je ne vais pas en dire davantage. C'est vrai que le film est quand même, je pense, un petit peu trop long. Il doit durer 1h49. Je l'aurais resserré un peu de 5-10 minutes. J'aurais enlevé 5-10 minutes. Mais voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est vrai, mais le film est loin quand même d'être aussi mauvais qu'on le dit. C'est vraiment un film à découvrir. Il y a un beau travail de mise en scène, comme d'habitude, hein, chez Christophe Gans. C'est quelqu'un qui sait filmer. C'est comme dommage, justement, qu'en France, on ne lui donne pas les moyens de faire des films, parce que son dernier film, c'était, je crois, La Belle et la Bête. Ça remonte il y a une dizaine d'années. Donc, entre La Belle et la Bête et aujourd'hui, voilà, il a pas fait de film, Christophe Gans. Ça, je trouve ça anormal. Un type comme ça. Donc, il sait filmer. En plus, les créatures, du film qui ont été conçues par Patrick Tatopoulos, elles sont vraiment magnifiques. Il y a beaucoup d'effets en practical. Alors, c'est intéressant, justement, des effets réalisés en plateau. Ça répond peut-être aussi à des impératifs budgétaires, parce que le film n'a coûté, entre guillemets, que 30 millions de dollars. Ça se sent peut-être un petit peu aussi, hein, dans le film. Il y a des moments réussis, d'autres un peu moins, ça peut paraître des fois un petit peu cheap. Voilà, je reconnais que effectivement, peut-être que Christophe Gans n'a pas eu les coups des franches pour imposer vraiment toute sa vision. Mais voilà, les créatures vraiment ont du sens. Voilà, je crois qu'il y a des problèmes au niveau de l'écriture, du scénario. Ça, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu le bémol aussi. Et le film reste un petit peu trop long. À certains moments, comme ça manque de rythme. Voilà. Et on n'a pas peur, ou c'est pas un film d'épouvante. Et c'est là où le film, justement, je pense, ne va pas rencontrer son public. Je crois que c'est déjà le cas, hein. Je crois que si vous voulez voir le film, il faut pas tarder à y aller parce que il va bientôt disparaître des écrans. C'est peut-être un peu moins bien réussi, c'est vrai, que le premier volet, que le premier Silent Hill, mais franchement, c'est pas un film qui mérite vraiment le torrent de critiques négatives qui s'est abattu sur lui. Je trouve que c'est un film attachant. Christophe Gans essaie de mener sa vision jusqu'à son terme. Il y parvient quand même. Et voilà, c'est un film que franchement, je n'ai pas détesté. J'étais plutôt agréablement surpris par le film. Voilà, au-delà de ses quelques défauts formels et d'écriture, c'est un film quand même qu'on peut aller voir. Il est 22h30, mon cher Laurent. Et il faut pourtant qu'on parle des films qui vont sortir sur nos écrans mercredi.
Eh bien oui, surtout qu'il il y a quand même quelques sorties. Comme à la coutume, mais
oui.
même en période de vacances, eh bien, on va pouvoir découvrir à partir de mercredi le film d'Alexander Murphy, Au-delà de Katmandou. Voilà. Alors, on va peut-être faire un petit listing là, ce soir. On va essayer d'être un petit peu rapide.
Un peu plus rapide.
Il y aura un autre film, Cold Storage, de Johnny Campbell, donc qui sort mercredi. Un film qui a pas mal de médiatisation pour Winocourt, pardon, Couture, avec Angelina Jolie. La femme cachée de Bachir Bensadok. Les filles de Soumitra Périès. Green Line de Sylvia Baglio, Kiss of the Spider Woman de Bill Condon.
Alors là, c'est peut-être à suivre, hein, parce que Bill Condon, c'est un bon metteur en scène, donc à surveiller ce film.
Love on Trial de Koji Fukuda.
Ça, c'est pour toi, Laurent.
Oui, oui.
J'aime bien les films asiatiques.
Un Maigret qui débarque. Maigret et le mort amoureux de Pascal Bonisère, le dernier long métrage.
Oui.
Alors, long métrage, mais qui flirte quand même avec peut-être pas le court, mais pas loin. Parce que le film fait 1h20. Hein, donc,
oui. Alors, Denis Podalydès hein, dans le rôle de Maigret. Donc oui, ça peut être intéressant. Hein.
Alors là, il le transpose quand même dans, je dirais, le Paris des années 2000.
D'accord.
Donc à voir.
Pourquoi pas.
C'est peut-être une surprise.
Oui.
Marty Suprême de Joss Safdi, donc ça.
Oui, alors ça a l'air quand même pas mal. Alors c'est vrai que il est beaucoup médiatisé parce que bon, il y a Timothée Chalamet dans ce film. Il joue le rôle d'un pongiste dans les années 50.
Le mystérieux regard du flamant rose de Diego Cespedes.
Quel beau titre, hein, le mystérieux regard du flamant rose.
L'ours. Et l'oiseau, donc ça c'est un programme de court-métrage. Il y aura aussi un autre film, là c'est plutôt un long, hein, d'Anthony Marciano, Le rêve américain. Là aussi il y a quand même une grosse médiatisation avec Raphaël Quenard, entre autres.
Et Jean-Pascal Zadi également. Une histoire vraie apparemment.
Saveur d'exil, Dan Solène Halt. Super Charlie de Jeanne Holmberg et pour en terminer Un monde fragile et merveilleux de Cyril Harris. Voilà, on a fait le tour, hein, mais bon, il y a bien une quinzaine de films encore. Hein.
Oui. Alors apparemment, le dernier film dont tu parlais là, Un monde fragile et merveilleux, est plutôt bien coté par les critiques, donc ça sera peut-être un film à découvrir aussi en salle.
Oui, parce qu'en fait, en plus, c'est assez rare, c'est une production libanaise.
Ah oui, en effet.
Donc, je pense que ça vaut le détour, en effet.
Voilà. Et puis, tu nous parleras d'ailleurs la semaine prochaine du film Le gâteau du président. J'y pense, c'est un film irakien, là aussi. Film irakien extrêmement rare. Hein, donc,
extrêmement rare, et ça, on ne manquera pas de vous en parler. On a vu aussi Nuremberg.
On a vu film de Park Chan-wook.
Oui, aucun autre choix.
Aucun autre choix.
Voilà,
on a vu le film de Sam Raimi également, Sam Help, on vous en parlera.
Voilà, on a vu quelques films encore.
Bon, mon cher ami, 22h34 minutes, eh bien, il est temps de nous quitter.
Eh bien, oui.
Voilà, on va souhaiter à nos auditeurs une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de RTF, une excellente semaine également dans les salles de cinéma. C'est les vacances pour un certain nombre d'entre vous, donc profitez-en. Surtout que la météo n'est pas vraiment au rendez-vous, hein, donc c'est l'occasion d'aller dans les salles obscures.
Il y aura beaucoup moins d'humidité.
Voilà. Ouais, normalement.
Et beaucoup plus de chaleur, hein, que ce soit d'ailleurs ambiante ou aussi à travers donc les œuvres que vous pourrez voir sur les différents écrans limougeaux et périphériques.
Tout à fait. Eh bien, je te souhaite une excellente semaine, mon cher Laurent, et je te dis à lundi prochain.
À lundi prochain, ciao, bonne toile, et à lundi prochain.